Atlantique Mobile de Banque Atlantique, l'appli mobile totalement gratuite, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Appelez-nous, exprimez-vous dans 30 minutes vos témoignages sur la pénurie des logements sociaux avec en toile de fond la Côte d'Ivoire. Abidjan, la capitale économique, est confrontée à une véritable crise des logements dits abordables. Ces logements qui sont destinés aux ménages à revenus faibles et intermédiaires. En 2017, c'est le dernier chiffre officiel. En 2017, il en manquait 600 000 dans l'agglomération d'Abidjan. C'est l'une des conséquences de l'urbanisation accélérée du pays. Du coup, l'État ivoirien a signé cette semaine avec la Banque mondiale un accord pour essayer de mobiliser les investisseurs publics et privés. L'objectif, construire 150 000 logements sociaux d'ici à 2025. Alors cette crise concerne évidemment la Côte d'Ivoire, mais la quasi-totalité des pays sur le continent africain. Dites-nous ce qu'il en est dans votre ville. Dites-nous si vous êtes également confronté à la crise du logement. Quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne? Continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Samou, on commence avec vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et des questions sur la guerre en Ukraine après la destruction hier d'un important barrage hydroélectrique.
Oui. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement après la destruction d'un barrage dans le sud de l'Ukraine. Quelle est l'importance de cette infrastructure pour la pays et pourquoi l'Ukraine appréhende-t-elle déjà des conséquences nucléaires?
Oui, barrage situé dans le sud de l'Ukraine, effectivement, dans la région de Kherson, qui est occupée, rappelons-le, par les forces russes. Bonjour Elsa Vidal.
Bonjour Juan.
Rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Les conséquences de la destruction de ce barrage ont été immédiates. On en parle chaque heure aux auditeurs de RFI. 24 localités inondées, des dizaines de milliers de personnes qui sont en ce moment même en cours d'évacuation. Expliquez-nous quelle est l'importance de ce barrage, aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie.
Alors, assez simplement, depuis que la guerre a commencé, la Russie s'est rendue maître de ce barrage et de la centrale hydroélectrique qu'il dessert. Et donc, tant pour les Ukrainiens que pour les autorités russes, cette installation, cette infrastructure est utile pour fournir à la fois de l'énergie électrique, mais aussi de l'eau potable au sud de l'Ukraine et aussi à la Crimée occupée par les Russes, qui sont deux grandes régions agricoles qui dépendent beaucoup de cette eau. Et puis, je dirais d'un point de vue militaire, c'est aussi très important, ce barrage est désormais, maintenant qu'il a été détruit, une ligne de protection pour les troupes russes et un obstacle pour la progression des troupes ukrainiennes. Quant au risque nucléaire qu'on a beaucoup évoqué naturellement...
Enfin, qui est évoqué surtout par les autorités ukrainiennes. Hier, un conseiller à la présidence ukrainienne disait « Le monde se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe nucléaire ».
Oui, alors ce n'est pas pour le moment l'avis de l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisque son responsable, Raphaël Grossi, a fait savoir que pour le moment, il n'y avait pas de risque imminent pour la centrale nucléaire, dont 5 des 6 réacteurs sont déjà à l'arrêt et le 6e est refroidi. On sait, d'après M. Grossi, que le refroidissement de ce dernier n'est pour le moment pas en danger, qu'il y a assez d'eau au niveau de la centrale nucléaire de Zaporijjia, c'est d'elle dont on parle, et que même si le niveau venait à baisser du fait de l'explosion du barrage, il y a d'autres réserves d'eau. Donc pour le moment, nous sommes plutôt rassurés en l'état actuel des informations qui nous parviennent.
Pas de danger nucléaire immédiat, dit le chef de l'AIEA, qui envisage d'ailleurs de se rendre la semaine prochaine sur place, même si les experts sont déjà sur le terrain et ils surveillent de près la situation. À vous entendre, Elsa Vidal, si je comprends bien l'enjeu, il n'est donc pas nucléaire. En ce moment, il est humain, il est environnemental.
Il est humain puisque, comme vous l'avez dit, il y a déjà 24 localités qui ont dû être évacuées. 30 au moins sont concernées. On parle d'un bassin d'au moins 40 000 personnes. Si on considère la ville de Kherson, par exemple, qui est une des villes toutes proches, une des grosses agglomérations le long du Dniepr, il y a déjà 1500 personnes
qui ont été... c'est le fleuve.
C'est le fleuve en question sur lequel le barrage avait été installé. Donc il y a à peu près 1500 personnes qui ont dû être évacuées. Sept personnes ont été portées disparues. On sait voilà, que c'est une catastrophe en termes humanitaires, puisque des gens doivent être déplacés, logés dans des régions qui ont déjà vécu beaucoup de déplacements liés à la guerre. Du point de vue écologique aussi, c'est une catastrophe, puisque les inondations s'accompagnent en plus de déversements de tonnes de pétrole, d'essence et d'hydrocarbures, puisque le barrage, c'est une grosse machinerie qui a été complètement détruite et dont les matériaux s'en vont dans l'eau. Et militairement, c'est aussi très grave pour les habitants, puisque le barrage faisait l'objet de mines, d'entrepôts d'armes, et que celles-ci sont emportées par les flots et donc dispersées tout autour.
En deux mots, Samou le disait en préambule, Kiev, Moscou s'accusent mutuellement. Les circonstances de cet incident restent floues encore à cette heure-ci, 24 heures après.
Absolument. Pour le moment, personne n'est en capacité de savoir ce qui s'est tout à fait précisément passé sur ce barrage, si ce n'est qu'un faisceau d'informations, selon de nombreuses autorités, converge plutôt pour faire des Russes les probables organisateurs de cette situation, dans la mesure où ils sont au contrôle du barrage depuis plus d'un an, qu'ils avaient déjà parlé de son minage. Et pour le moment, malheureusement, nous ne pouvons pas dire très clairement qui a procédé à cette explosion. En revanche, cette explosion bloque la progression de la contre-offensive ukrainienne.
Samou, a-t-on répondu à vos deux questions ?
Oui, merci. Bonne,
bonne journée.
Merci, au revoir.
Pareil à vous.
Merci, bon courage à Abidjan, où il est 8h17. À bientôt, Elsa Vidal, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. On va parler football, c'est officiel depuis hier. Karim Benzema rejoint donc l'Arabie Saoudite. L'attaquant français a signé un contrat de 3 ans avec le club d'Al Ittihad. Fabien, soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Bonjour Fabien, vous êtes à Casablanca, au Maroc.
Oui, je suis à Casablanca, au Maroc. En fait, j'ai des questions concernant le départ de Karim Benzema.
Oui.
En fait, ma première question est aujourd'hui, est-ce que le départ de Karim Benzema vers le club saoudien Al-Ittihad pourrait convaincre d'autres joueurs de s'envoler vers l'Arabie Saoudite?
Bon, déjà, il va retrouver Cristiano Ronaldo. Hein. Bonjour Sofiane Amazian.
Bonjour Juan, bonjour Fabien et bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service des sports de RFI. Karim Benzema va donc poser ses valises à Jeddah, en Arabie Saoudite. Sera-t-il rejoint par d'autres joueurs?
Bon, déjà, avant de répondre à cette question et s'attarder sur ce cas Karim Benzema, Juan, on va remonter un peu dans le temps et expliquer que l'offensive saoudienne en matière de football, ben, elle a démarré en fin d'année dernière lorsque Cristiano Ronaldo, vous l'avez dit, s'est engagé avec le club d'Al Nasser. C'était un séisme hein, dans le monde du foot quand on connaît la carrière du quintuple Ballon d'Or. Mais l'offre, elle était irréfusable. On va rappeler le chiffre, 400 millions d'euros sur deux saisons. C'est donc l'arrivée du Portugais qui a ouvert la brèche. Karim Benzema, lui, en fait, c'est la deuxième étape du plan de l'Arabie Saoudite à tirer un deuxième Ballon d'Or, une légende du Real Madrid, un buteur hors pair, puisque la notoriété de l'attaquant français, évidemment, dépasse les frontières européennes.
Alors, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et peut-être, je dis bien peut-être, Lionel Messi, oui, bientôt en Arabie Saoudite.
Avec des guillemets, puisque le septuple Ballon d'Or, lui, en a terminé avec son aventure parisienne. Son cœur balance d'un côté, il y a ce retour à Barcelone, évidemment, chez lui, c'est la priorité hein, du clan Messi. L'opération financière pour le ramener, elle n'est pas encore clairement établie. Puis de l'autre, il y a ce qu'on appelle l'appel au large, hein, direction l'Arabie Saoudite, un championnat prometteur avec des nouvelles têtes d'affiche, donc Cristiano Ronaldo et maintenant Karim Benzema. Bon, c'est surtout hein, l'aspect financier, hein, Juan, qui fait réfléchir le champion du monde argentin. 1 milliard d'euros pour un contrat de 2 ans, mais si ou non, la présence de Benzema quand même, hein, ça va donner envie à d'autres joueurs de s'essayer à cette vie saoudienne. On parle ces dernières heures d'une possible arrivée de N'Golo Kanté, le milieu de terrain champion du monde français.
N'Golo Kanté, ex-coéquipier de Benzema en équipe de France. Fabien, une autre question ?
Oui, en fait, Juan, l'Arabie Saoudite semble vouloir devenir un pôle mondial du football. Quelles sont les stratégies pour y parvenir ?
Alors, c'est l'argent, non ? Vous parlez d'argent depuis le début, Sofiane Amazian.
Bon, c'est vrai que c'est joliment dit, on va pas y aller par quatre chemins. C'est bien évidemment l'argent, le critère premier. L'Arabie Saoudite et le fonds souverain disposent de moyens financiers considérables, on le sait, grâce au pétrole. L'arrivée de grandes stars mondiales, hein, moyennant des salaires stratosphériques, s'inscrirait dans ce qu'on appelle un projet global de mise en lumière du football local pour en faire une référence dans le monde. L'Arabie Saoudite se projette peut-être à moyen terme, 2030, une date importante.
Ah
pourquoi
oui. Coupe du Monde.
Puisque exactement, Rohan, le pays du Golfe veut organiser une Coupe du Monde comme l'avait fait le Qatar l'hiver dernier. Et pour ce faire, le fonds souverain saoudien souhaite investir plus massivement dans 4 clubs bien précis. Al Ittihad, hein, le club de Karim Benzema, Al Nasser, celui de Ronaldo, Al Hilal et une équipe de deuxième division. Chacune de ces formations, à en croire le plan d'investissement qui a été détaillé il y a quelques jours dans le New York Times, alignera 3 joueurs stars parmi les recrues faites par le pays, petite précision, c'est le championnat saoudien qui recrute pour l'instant les joueurs stars et non les clubs. C'est important de le préciser.
C'est important, effectivement. Fabien, on a été complet ou vous avez encore une dernière question? Profitez-en, Sofiane Amazian est là.
J'ai une dernière question,
Juan.
Allez-y. Cela ne risque-t-il pas d'être en effet comme pour la Chine et les États-Unis?
Ah oui, c'est vrai que ça n'a pas vraiment fonctionné en Chine et aux États-Unis. Pourtant, on se souvient que ces deux pays avaient sollicité des grands joueurs pré-retraités. et finalement, le résultat n'a pas été très probant. Qu'est-ce qui pourrait être différent cette fois?
Ouais, une retraite dorée aux États-Unis, une retraite dorée à la Chine. La différence avec l'Arabie Saoudite, peut-être, c'est le statut des joueurs recrutés. Juan, on parle là de Karim Benzema, une légende du football français, Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être Léo Messi, qu'on peut classer aussi parmi les plus grands de ce sport. Alors, un exemple qui a plutôt bien fonctionné, c'était le championnat américain, on se rappelle. La MLS avait recruté il y a quelques années David Beckham ou encore Zlatan Ibrahimovic, qu'on peut considérer comme des légendes du football. Mais depuis quelques années, la stratégie du championnat américain a changé. La MLS, maintenant, mise sur des talents locaux, recrute beaucoup plus intelligemment. C'est une preuve aussi que le niveau s'est élevé grâce au recrutement de ces stars sur la fin. En Chine, par contre, Juan, là, c'est totalement différent. L'appât du gain n'a attiré que des joueurs à la carrière plutôt stagnante. On peut citer des Brésiliens comme Hulk ou Oscar. Et surtout, depuis quelques années, il n'y a aucun grand joueur qui allait jouer en Chine. Donc voilà deux expériences sur lesquelles peuvent se baser les Saoudiens. Alors, s'il y a une logique sportive derrière et pas seulement une volonté de mettre en lumière un pays pour organiser une Coupe du Monde, on peut capitaliser sur l'arrivée d'un Karim Benzema, d'un Cristiano Ronaldo, peut-être même d'un Léo Messi.
Ça fait quand même 3 ballons d'or.
Exactement.
Pas mal.
C'est beau. Mais l'objectif, on l'espère, sportivement parlant, c'est d'améliorer le championnat local.
À suivre. Fabien.
Merci, Juan. C'était les questions que je voulais poser.
Et bah voilà. Vous avez bien fait de nous appeler.
Merci les auditeurs de RFI partout dans le monde. Merci beaucoup.
Bonne journée à Casablanca et à bientôt. Sofiane Amazian, journaliste au service des sports de RFI. On va parler de la Guinée maintenant. On a des questions sur le récent voyage du président guinéen de la transition en Turquie. Bonjour, Alpha.
Bonjour, Erdo.
Allô ?
Bonjour.
Oui, j'ai cru qu'il y avait une coupure. Bonjour, Alpha. Vous êtes à Conakry ?
Oui, je suis à Conakry. Ce matin, j'ai 2 questions pour vous, Johan.
Alors, allez-y.
Le colonel Doumbouya est revenu de Turquie après avoir assisté à l'investiture d'Erdogan. Comment expliquer qu'il n'avait jamais quitté le continent jusque-là?
Ah, c'est vrai. La Turquie, premier voyage hors du continent africain depuis sa prise du pouvoir en septembre 2021. Bonjour, Sidi Yansané.
Bonjour, Juan. Bonjour, Alpha.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. C'est vrai que le président guinéen de la transition voyage très peu.
Oui, c'est vrai. Mais rappelons quand même que déjà le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 suite à un coup d'État contre le président Alpha Condé qui entamait un troisième mandat très contesté et qui avait provoqué beaucoup de violences, de morts et d'arrestations à travers le pays. Alors le jeune colonel, c'est un peu un nouveau venu dans l'armée guinéenne qui a pourtant été très vite parachuté à la tête du puissant groupement des forces spéciales. Donc on ne peut pas dire que toute l'armée était derrière lui au moment du putsch, surtout qu'historiquement, tous les putsch militaire en Guinée ont commencé ou terminé par un règlement de compte entre gradés. En 84, entre le général Lansana Conté et le colonel Diarra Traoré. En 2009, entre le capitaine Moussa Dadis Camara et son aide de camp Toumba Diakité. Donc, avant de sortir du pays, le président de transition Doumbouya devait d'abord consolider son pouvoir, rassurer les partenaires africains et internationaux. Mais il faut quand même préciser que le chef d'État guinéen a déjà effectué 2 sorties officielles. Une à Bamako à l'occasion de la fête nationale malienne. Lui, le président d'ailleurs, Assimi Goïta, se connaissent très bien, oui. Et une seconde à Freetown auprès du président Julius Madabio.
Voilà, donc cette visite en Turquie, le troisième déplacement du colonel Doumbouya, le premier en tout cas hors des frontières continentales. Alpha, vous disiez avoir 2 questions.
Oui, exactement. C'est sa deuxième sortie hors du continent.
Troisième.
Pourquoi a-t-il choisi...
Non, c'est la première sortie. Hein.
Oui, c'est la première sortie hors du continent. Pourquoi a-t-il choisi la Turquie comme première visite internationale?
Ah, Sidi Yansané.
Bah, Alpha a des raisons politiques avant tout, mais aussi des raisons économiques. Lorsqu'il était encore président, Alpha Condé a développé une relation particulièrement forte avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et depuis, la Turquie s'est grandement implantée dans l'économie guinéenne via la société Alberak, qui sert de vaisseau amiral économique, mais aussi diplomatique pour le chef de l'État turc. Sous Alpha Condé, Alberak a récupéré la gestion des terminaux minéraliers du port autonome de Conakry sans appel d'offres. La société est aussi dans le transport public et le ramassage des ordures. Ses compétences à cette société dépassent largement le seul cadre économique. C'est Alberak, par exemple, qui s'est occupé de l'évacuation du président déchu vers la Turquie il y a un an, alors même qu'Alpha Condé avait vu ses passeports confisqués par l'agence. En septembre dernier, c'est sur cette même société que le président Doumbouya a fait pression en faisant fermer ses locaux du port autonome pendant quelques jours afin d'exiger le retour en Guinée de son prédécesseur. Mais depuis, les relations entre l'État guinéen et la compagnie Alberak semble se normaliser car il y a quelques semaines, elle a remporté le marché d'extension de l'aéroport de Conakry, un projet estimé quand même à 200 millions de dollars selon Africa Intelligence.
Ouais, et en quelques mots, Sidi Yansané, sur le plan strictement politique, que retire Mamadi Doumbouya de cette visite?
Moi, quelques sources me confient que ce déplacement a surtout permis au président Doumbouya de montrer sa volonté de rapprochement avec Erdogan et donc de demander à ce dernier de calmer, entre grands guillemets, son hôte Alpha Condé. Il y a quelques semaines, des partisans de l'ancien président se sont mobilisés pour exiger son retour à la tête du pays, donc de quoi troubler la paix sociale, alors que la cherté de la vie se fait de plus en plus sentir et que la répression des autorités de transition contre les opposants, la société civile et les médias s'est accentuée ces dernières semaines. Et puis, un détail d'importance, c'est la première fois que le colonel Doumbouya était publiquement habillé en costume depuis son putsch, de quoi lui donner une image de présidentiable auprès de sa population et des autres chefs d'État. On peut facilement deviner que le président colonel a rencontré des homologues africains, notamment durant sa visite, son séjour en Turquie. La fin de la transition en Guinée est prévue pour fin 2024. Le colonel Doumbouya a toujours affirmé qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle, mais pour l'instant, aucune certitude n'est possible dans ce pays qui est connu pour ses chefs d'État qui ont tendance à s'éterniser au pouvoir.
Merci de votre analyse, Sidi Yansané. Alpha, on a répondu à vos questions?
Non, c'est tout, Johan. Merci beaucoup.
Eh bien, bonne journée à Conakry. Si vous souhaitez réécouter les explications de Sidi Yansané, rendez-vous sur l'application RFI Pure Radio ou sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Merci, Sidi Yansané. 10h27 à Paris, comme promis. Ozana est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Je dis comme promis, hier vous étiez en ligne avec nous, mais malheureusement, faute de temps, vous n'avez pas pu poser votre question. Vous êtes à Béboto, c'est dans le sud du Tchad. Nous vous écoutons.
J'ai l'impression qu'en Afrique, dès qu'il y a un soulèvement populaire, les dirigeants coupent systématiquement le réseau téléphonique et l'accès à Internet. Alors, ma préoccupation est celle de savoir, les opérateurs de téléphone et Internet sont-ils obligés de respecter ces interdictions? Quel rôle joue-t-il dans cette situation?
Alors, vous savez quoi? Pour vous répondre, qui de mieux placé que le responsable du bureau de l'Afrique de l'Ouest, de l'ONG Internet sans frontières? Bonjour Kemal Afagnon.
Bonjour Juan, bonjour Ozana et bonjour à tous.
Notre auditeur fait référence à la situation au Sénégal. Je précise qu'hier soir, l'accès à Internet mobile a été rétabli. Il avait été restreint sur certaines plages horaires depuis dimanche. L'accès aux réseaux sociaux, lui, reste toujours restreint. Kemal Afagnon, est-ce que les opérateurs téléphoniques sont obligés de respecter les interdictions fixées par les États?
Alors, en général, la capacité des gouvernements africains à couper le réseau Internet dépend de leur pouvoir de contrôle sur ces entreprises de télécommunications qui fournissent donc l'accès à Internet, comme vous le disiez, aux mobiles africains. En vertu du droit international, les opérateurs de télécom ont pourtant le devoir de s'opposer à de telles injonctions, car elles fournissent un service qui est tout d'abord payant à leurs abonnés. Cependant, il faut dire que les ordres et l'exécution de ces ordres concernant les coupures se font souvent de façon opaque. Toutefois, il faut préciser que lors de crises politiques ou en période électorale, cet ordre provient parfois du pouvoir exécutif qui ordonne aux fournisseurs donc de limiter l'accès du réseau à leurs abonnés. Pour pouvoir fournir donc leurs services, ces entreprises obtiennent souvent des licences qui sont octroyées par les gouvernements des pays où elles opèrent. Donc, pour éviter donc de perdre ces licences, elles évitent de se fâcher avec ces gouvernements.
Alors, Kemal Afagnon, vous savez quoi? Vous restez en ligne avec nous. On est obligé de rendre l'antenne pour la dernière édition d'Afrique Matin et on poursuit évidemment les explications dans 10 minutes.